Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
David, nous sommes très 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 heureux et heureuses de t'avoir ce soir. On a failli t'avoir l'an dernier et puis malheureusement il y a eu un petit impératif, mais voilà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, alors là j'ai été obligée de prendre les notes, hein. Il y a de l'expérience. Tu es écrivain, réalisateur, punk rock, sous-veillance et contre-filature. Tu as réalisé Un pays qui se tient sage, qui était ton premier long métrage au cinéma, qui a été soutenu par la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2020, qui a reçu le prix Lumière du meilleur documentaire 2021 et qui a été nommé au César 2021 dans la catégorie meilleur documentaire. Et 2021 est une grande année, puisque c'est également l'année où il a créé le contre-média en ligne Au Poste, qui dans la salle connaît Au Poste. Hey ! Vous êtes bon, franchement. Et en 2025, tu as signé une biographie de Françoise Debonne, pionnière écoféministe et grand-mère impossible. Tu es également l'auteur de plusieurs romans, dont Dernière sommation et 19h59, après une dizaine d'ouvrages d'enquête, dont par exemple On ne vit qu'une heure, Une virée avec Jacques Brel et Tarnac magasin général. Tu as également reçu le Grand Prix du journalisme 2019 aux Assises internationales du journalisme pour ton projet Allo Place Beauvau sur les violences policières, travail qui a été reconnu par l'ONU, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, à défaut d'être reconnu par la France. Pardon. Elle m'a échappé. Et tu as remporté le World Press Photo 2011 catégorie œuvre non linéaire pour ton web documentaire Prison Valley, qui t'a ouvert les portes du MIT Open Documentary Lab, où tu as été en résidence pendant 2 ans. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous.
Merci Audrey. Je ne sais pas si la caméra peut pivoter juste, c'est votre nuque, vous ne serez pas reconnaissable, juste pour montrer aux oppostiens qui sont en train de regarder le nombre de gens qu'il y a ici. C'est absolument incroyable. Je vais commencer tout de suite. Je suis un peu ému parce que j'aurais tellement aimé être à votre place. Savoir coder, ça m'aurait plu. Mais vous allez voir, j'ai essayé de coder un peu dans ma vie. Et alors je vais faire vite puisque Audrey a raconté vite fait. Je voudrais juste vous dire que l'histoire entre la police et moi, c'est une vieille histoire, puisque en 1998, j'ai fait le petit bouquin qui est là-haut avec un dénommé Florent Latrive, Pirate et flic du net. C'était vraiment les tout débuts de ce qu'on appelait du vol d'électricité. C'était ce à quoi vous étiez, pour ceux qui faisaient un peu de hacking, le délit à l'époque, c'était vol d'électricité. Puis depuis, c'est devenu autre chose. Et donc effectivement, j'ai participé à un certain nombre de médias, Libération avec Florent Latrive, Mediapart, et puis j'ai fait différents webdocs, tout ça. Bon voilà, c'est fait, c'est voilà. Ça, c'est plus important. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah, il n'y a pas le son. Quelqu'un peut... Voilà, vous voyez quand je vous dis que ça va pas. Bon alors, ah merde, il n'y a pas le son. Bon, ça c'était le bruit du modem. Mais en fait, alors, pourquoi j'ai la pétoche? C'est parce que moi je pensais, ouais, je vais à la fac, Lyon, c'est que des gens de 20 ans, 25 ans, je vais essayer de leur expliquer ce que c'est que la préhistoire, mais je vois que nous sommes quelques-uns à avoir en fait... Bon voilà, je voulais vous faire réécouter ça. Ça n'a pas marché, je suis absolument désolé. Donc en ce qui me concerne, c'est 1994, je suis dans un petit studio à Paris. Je paye mes connexions en dollars. Je suis connecté à un service qui s'appelle CompuServe. Je passe... Une nuit, je vous promets, je réveille ma compagne de l'époque à 5h du matin, je lui dis « ça y est, ça marche !» Là où vous auriez mis 2 minutes, et ça a été quand même quelque chose d'absolument renversant, ce bruit du modem que j'ai encore en tête, qui est le bruit de mes utopies, puisque alors que je rentre à Libération, c'est-à-dire que voilà, je rentre dans un journalisme, on va dire... établi. Pas au sens établi maoïste, pour ceux qui auraient la référence, alors là c'est encore plus ancien, ça je suis pas sûr que ça... Bon bref, qu'est-ce que je raconte ? Oui, donc, libération d'un côté, et de l'autre côté, le web. Voilà. Et, alors qui connaît ça ? 1, 2, ah ! Donc vous ne connaissez pas vos classiques. Excusez-moi. Akimbe, zone d'autonomie temporaire. C'est le texte extrêmement essentiel au milieu des années 90 pour toute la communauté. On est quelques centaines, quelques milliers. En 94, on est quelques milliers sur le web. Il y a déjà des gens qui créent des sites, un nouveau guide Internet, comme si on connaissait Internet. On est quelques-uns à être... sur les BBS, sur le web qui arrive, etc. Et il y a ce texte, Zone d'autonomie temporaire de Akimbe, 1994, qui va marquer vraiment toute une génération, on va dire la première génération du web francophone, même si lui est américain, qui est une génération très utopiste et très marquée à gauche. En deux mots, les zones d'autonomie temporaire, c'est les pirates, mais les pirates des mers, qui allaient d'île en île, en sachant que tôt ou tard, ils seraient chassés par les méchants flibustiers, aux mains de l'État espagnol, français, etc. Mais ils s'en foutaient, parce qu'ils allaient, ces pirates des mers, hein, donc du XVIe siècle, etc., ils allaient d'île en île, et chaque île était une zone d'autonomie temporaire. Un lieu comme une sorte de nouveau paradis. C'est comme ça qu'on voyait à l'époque, c'était il y a 30 ans, le web. Bon, alors moi, je fais ça, la Gazette de l'Idiot du Village Global, la Rafale, 1994, qui est un petit site parmi d'autres. À ce moment-là, on fait du HTML 1.1.0. Super compliqué. Super, super compliqué, mais voilà, ça, voilà. Bon, moi, je fais ça, on est quelques-uns à faire, c'est bien avant les blogs, et il y a ça, qui est pour moi extrêmement important. On se retrouve un certain nombre de webmestres, de gens dans le mini-réseau. Dans le mini-réseau, il y a un certain nombre de journalistes, il y a des gens... qui vont devenir assez célèbres, comme Mona Chollet, par exemple. Il y en a d'autres qui vont travailler au monde diplomatique, enfin, c'est le cas de Mona. Mais à ce moment-là, on est un collectif anonyme et on publie en 1997 ce manifeste du web indépendant, où en fait, alors c'est con parce que là j'ai pas mes notes, où on dit dès 97 le danger du commerce, le danger... c'est incroyable, face aux sites commerciaux, aux messages publicitaires agressifs destinés à ficher. Ah oui, merde, j'avais promis que je ne dépasserai pas, pardon, désolé. Désolé, c'est pas grave. Alors, vous savez quoi ? Dans 10 jours, sort ce livre, extraordinaire, tous les manifestes, les plus grands, tous ceux que vous connaissez par cœur, plus celui-ci que vous ne connaissez pas, il est là, le mini-réseau. Promesses et utopies, une anthologie des manifestes du web. Voilà. Donc ça, c'était une petite mise en bouche pour vous expliquer d'où je viens. Quelques temps plus tard, effectivement, j'assiste sans doute comme vous à des violences policières, notamment faites aux Gilets jaunes, notamment faites à Lyon, mais partout en fait. Et je me dis, je vais utiliser une technologie, Twitter, une plateforme, pour essayer d'alerter mes petits copains ou mes ex-petits copains et ex-petites copines journalistes, dont je trouvais qu'ils foutaient rien sur la question des violences policières. Et donc je me dis, où sont les journalistes aujourd'hui ? Alors à l'époque, on est en 2018, ils étaient sur Twitter. Donc je décide de faire Allo Place Beauvau. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? Oui ? En deux mots, c'est probablement ce que j'ai fait de plus chimiquement, journalistiquement pur, au sens où c'est vraiment les 5 W, qui, quoi, quand, où, quand, comment, etc. Voilà. Et effectivement, ça va prendre... Donc l'idée, c'était de répertorier jour après jour tout ce qui pouvait être laissé sur les réseaux sociaux qui caractérisait des violences d'État, des violences policières, etc. etc. Il a fallu expliquer, parce que la question policière, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas que les flics et pirates du net qui m'intéressent, ça fait très, très longtemps que je m'intéresse à ces questions-là, et donc il a fallu à un moment donné expliquer tout ça, expliquer que ce n'était pas le fruit du hasard, que c'était systémique. Et là, je suis retourné voir mes copains de Mediapart pour leur dire si on faisait une data visualisation. Et là, ça a été assez extraordinaire parce que grâce à des gens comme vous, des copains que j'ai retrouvés de l'époque des années 90 ou des années 2000, ils prenaient mon travail. Pour vous, ça vous paraît rien du tout, mais pour moi, c'était énorme. Ils ont créé des moulinettes qui permettaient d'aller récupérer automatiquement tous les tweets que je faisais, de les mettre dans une base de données, et cette base de données générait une infographie que vous voyez ici, qui va, à ce moment-là, on va dire, un peu marquer les esprits et faire en sorte qu'avec d'autres, qu'en effet, la question des violences policières devienne un enjeu de débat public, de société, etc. Et donc là, vous voyez, c'est l'idée de dire, il y a d'un côté le côté geek, la technologie, utiliser les outils à notre disposition, même sans être tout à fait dupe de ce qu'ils peuvent être. Alors, pour Twitter, n'en parlons pas, vu ce que c'est devenu. Mais quand même, à un moment donné, comme une zone d'autonomie temporaire, se dire à ce moment-là, c'est ça qu'il faut utiliser. Et donc, c'est l'idée de dire qu'il peut y avoir de temps en temps, une victoire des médias faibles contre les médias forts, ceux qui taisaient. Bon, là, c'était la bande-annonce. Alors, on peut la voir comme un film du 19e siècle qui serait muet, voilà, mais c'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas le son. Donc, et ça, c'est au poste. On a toujours des problèmes techniques. C'est un peu notre marque de fabrique. C'est pas grave, je vous enverrai la vidéo, si vous voulez, c'était la bande-annonce. Donc ça, c'est, excusez-moi, j'ai oublié d'expliquer. Ça, c'est le film que j'ai fait après, Un pays qui tient sage, où là, d'une certaine manière, j'essaie de faire rentrer les images des réseaux sociaux et de dire ces documents sont des documents de cinéma, en réalité. C'est-à-dire que, oui, ça peut être du direct, qu'importe qui filme, il y peut y avoir des moments de cinéma dans le stream, dans le live le plus banal qui soit. Il suffit juste de regarder. Tout est toujours une question de perspective. Et il y a par exemple la vidéo du Burger King, je ne sais pas si on la voit ici, mais dont vous vous souvenez peut-être, qui est d'une certaine manière un plan séquence absolument effroyal, mais magnifique. Hein. Le jeune street reporter progresse à l'extérieur du Burger King comme les CRS progresser et tabasser à l'intérieur, etc. Bref, il va y avoir ce film qui va rencontrer un certain succès. Et notamment, alors merci Audrey de m'avoir rappelé, je ne sais pas si tu l'as fait là ou tout à l'heure, il a été sélectionné à Cannes, l'année où Cannes n'a pas eu lieu. Donc, c'est pas cool de me rappeler ça. Bon... On s'en fout. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire Internet n'est pas une télé. Non. Internet, le web, c'est le HTML, c'est l'hypertexte, c'est la déconstruction, non pas du langage, mais de la façon de communiquer, cette idée que chacun peut être émetteur, récepteur, etc. Et c'est pas du tout une simple télé. Donc, je vous en conjure, codeuses, codeurs, développeurs, développeuses, ramenez-nous de la démocratie dans le code. Ne travaillez pas pour des gens qui nous réimposent le Minitel. Ça devrait parler à la moitié de la salle, le Minitel, quand même. S'il vous plaît, faites pas ça. Ah, merde. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors tout ça pour dire que on m'avait dit oui, il faudrait que tu présentes au poste, machin. Bon, j'avais pas tellement envie de faire de la publicité pour ce modeste média qui est ici, voilà. Voyez, là nous sommes en direct. C'est bon. Il est bon, le mec, il a pas peur, il continue, tac tac. Tiens, c'est marrant ça, pourquoi je suis sur le côté ? Bon, bref, voilà. Ça, c'est notre média depuis 2021. Je fais vite, je ne sais pas s'il me reste du temps, en fait. C'est bon. Au départ, ça commence comme une blague. Il s'agit de... merde, qu'est-ce que je fais ? Oh là là, catastrophe. Voilà. Alors, voilà. Ici, en haut à gauche... Gustave, c'est mon fils, qui m'explique il y a 5 ans comme le layout d'un Twitch. Chatbox, ma gueule, Gustave Live, etc. Et à partir de là, je dis, putain, c'est ça, le chat, l'interaction. On revient aux zones d'autonomie temporaire, c'est reparti pour un tour. Et donc, on a lancé Opos, qui est un média indépendant. Et aujourd'hui, on est une petite équipe de, on va dire, 5-6 personnes, avec notamment des développeurs, des graphistes, une modératrice, des journalistes, etc. etc. L'idée, c'est d'essayer de faire ce que Jacques Rancière, le philosophe, a un jour dit quand il est venu au poste, mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant. Ah ! Quelqu'un a raclé sa gorge ? C'est bon signe. Il ne me reste plus beaucoup de slides. Alors, parlons un peu de pratique. Bien sûr, nous sommes sur Twitch. Si vous voulez nous aider, ne faites pas de sub. Tant pis pour l'algorithme. Les robots de Jeff Bezos ont compris depuis belle lurette que nous avons plus d'audience que de subs, c'est-à-dire que d'abonnés. Pourquoi ? Parce que depuis 5 ans, on dit aux gens, ne vous abonnez pas sur Twitch parce que vous donnez la moitié à Jeff Bezos, c'est un peu ballot. Allez donc nous donner de l'argent directement en faisant des dons sur notre cagnotte, etc. Donc ça, les plateformes détestent ça. Hein. On leur coûte de la bande passante, on n'est même pas sympathique. Faut que j'arrête ? Je suis toujours inquiet, moi, quand je vois... Les... Putain, c'est dur ici. Hein. Putain, on m'avait dit... Hein. Pardon, je suis désolé. Bon, on continue. Bien, donc, depuis 4 ans, nous travaillons avec, peut-être est-il là, un développeur lyonnais, et maintenant il a une équipe autour d'un projet qui s'appelle Peertube. Est-ce que vous connaissez Peertube ? Ah, Audit ? Bon, donc, c'est l'alternative à YouTube. En gros, vous hébergez les vidéos sur votre propre serveur et chacun les regarde en peer-to-peer. Voilà. Vous évitez les algorithmes, les mouchards et compagnie, et vous êtes libre, autonome et indépendant comme une commune libre. Vous êtes des vrais canuts. Voilà. En gros, voilà. Alors nous avons ça. Nous hébergeons toutes nos vidéos sur Peertube depuis maintenant 4 ans. On fait de temps en temps des tests de charge en direct. On a travaillé avec John Livingston, qui est un des développeurs qui s'occupe du plugin de chat, parce que, bon, ça j'ai oublié de vous le dire, mais une des raisons premières de... la raison par laquelle on était allé sur Twitch au départ, c'était pour l'outil extraordinaire de modération et de chat. Donc on essaie de transposer cette technologie sur Peertube. Donc encore une fois, vous voyez, l'idée de... On fait des interviews, c'est que des trucs avec des historiennes, des historiens, des chercheurs, des chercheuses, des syndicalistes, des activistes, tout ce que vous voulez, des philosophes, des militants. Mais on essaie aussi d'accorder le plus possible la technologie à nos idées. Alors, j'avais On m'avait dit, oui, il faudrait que tu parles de l'indépendance financière des médias. Bon, je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, en gros, notre modèle économique, il est inexistant. Et bah, c'est le meilleur. Pardon. Alors, en gros, c'est le don. Il se trouve que comme nous sommes un média reconnu en tant que tel par le ministère de la Culture, nous sommes reconnus d'intérêt général et d'intérêt public, ce qui veut dire que nous pouvons faire bénéficier des déductions d'impôts sur les dons, privés ou entreprises. J'ai vu qu'il y avait plein de stands de grosses boîtes, là, Siemens et compagnie... n'hésitez pas. N'hésitez pas à soutenir les gens qui font les keynotes. Très bien. Et donc, il y a aussi l'abonnement depuis 2 mois, plus classique, avec un abonnement qui démarre à 2 euros pour ceux qui n'ont pas d'argent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, bah, évidemment, c'est le nerf de la guerre, et je voudrais terminer avec ça, parce qu'à propos de guerre, en 1944, des gens, des résistants, dont certains venaient d'ici, de Lyon, n'en déplaise aux fachos qui se baladent la nuit sur les pentes de la Croix-Rousse. 1944, le programme du Conseil national de la résistance. Je vois que tout le monde n'applaudit pas. Alors... Alors, les ordonnances de 1944, mai 44, avant le débarquement, que dit le Conseil national de la résistance dans ses ordonnances? Article 1, pensez à Bolloré, pensez à Arnaud. La presse n'est pas un instrument de profit commercial, mais un instrument de culture. Sa mission est de donner des informations exactes, de défendre des idées, de servir la cause du progrès humain. Article 2, la presse ne peut remplir sa mission que dans la liberté et par la liberté. Article 3, la presse est libre quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, hein Vincent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs. Ah ouais. Sauf que, voilà où on est. Voilà où on est. Hop, non, ça, on s'en fout. Oh, bah si, tiens, allez. On va finir avec ça. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu nerveux. Attends, ça doit être ici, ouais. Ah, ben non, il n'y a pas le son. Bon, bah, dommage. Voilà, c'était hier soir à ce soir où j'ai déchiré mon contrat qui allait me lier à Grasset, qui a été racheté par Bolloré. Et là, je ne dis pas, j'ai tous les trolls fachos sur le dos, quoi. Voilà, merci à vous.
Anne-Claire, j'espère que tu leur as montré la salle debout à Au Poste. Merci beaucoup, David. C'était hyper important pour nous de t'avoir. Abonnez-vous Au Poste, faites des dons Au Poste, faites des dons aux autres médias indépendants, c'est hyper important. Et merci. Et on vous retrouve à la soirée Mixit et demain pour les prochaines conférences. Bonne soirée.
Sur opposte.fr. car abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne, abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des dons
à abonnez-vous. Ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.